Salut la piraterie, on espère que vous commencez bien cette semaine de confinement, pas confinement. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Rekinsa avec Better Days. Il a sorti un EP totalement gratuit sur Spotify et utilisable pour vos projets non commerciaux. Ça, c'est l'esprit pirate. Donc aujourd'hui, les moussaillons, on va parler des gens qui bossent et de l'importance de se syndiquer avec Elliot, étudiant intérimaire et futur apprenti. Puis ensuite, on vous donnera la parole avec une antenne libre. Mais avant, on se présente avec Adèle, qui sera ma co-anime.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Adèle. Désolée pour le petit temps de latence. Écoutez, je vais me présenter. Moi, je travaille aux espaces verts d'une grande municipalité, la plus grande de France même. Je suis jardinière et par ailleurs, je suis aussi syndicaliste à la CGT. Et voilà, super motivée pour cette émission, ce live ce soir sur le boulot.
Ok, et ben moi je me présente aussi quand même. Je suis Missa, je suis contractuelle de la fonction publique territoriale, je bosse en bibliothèque et je suis syndiquée aussi à la CGT. Pour commencer, on va faire un petit relais des caisses de grève. Donc c'est important de parler des caisses de grève en cette période. Donc, je vais vous parler d'abord de la caisse de grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Donc, je pense que beaucoup de gens qui écoutent l'émission la connaissent. Mais en gros, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis sont en grève depuis exactement le 17 juillet 2019. Et elles ont besoin de soutien pour leur grève contre le grand groupe Hôtel Ibis. Parce que elles dénoncent en fait leurs conditions de travail, de la sous-traitance notamment, parce qu'elles font partie d'une boîte de sous-traitance, leur paiement et tout ça. Donc vous pouvez voir tout le descriptif dans leur Pau Solidaire. Donc vous allez retrouver ça sur le chat Twitch ou sur nos réseaux sociaux Instagram un peu plus tard et Twitter qui va tout de suite, la team com de la piraterie va s'occuper de mettre tout ça. Ensuite, je parle juste des ouvriers agricoles intoxiqués aux pesticides en Martinique, qui ont aussi une caisse de grève, pardon, sur Eloasso. Donc, que vous allez également retrouver sur nos réseaux sociaux. Et je vous laisserai lire tout le descriptif qui est dans le lien.
On va parler d'une troisième caisse de grève. C'est la caisse de grève des agents et des agentes territoriaux de la ville de Saint-Denis dans le 93. Ils et elles sont sur une mobilisation très importante face à leur direction, hein, la mairie de Saint-Denis, parce que, comme la plupart des agents territoriaux en France, à cause de la loi de transformation de la fonction publique, elles vont perdre beaucoup de conquis sociaux. Et la mairie de Saint-Denis est en train de mettre ça en place de manière particulièrement sale. Et les agentes territoriales sont sur une grève assez dure là depuis 2 semaines à peu près. Et donc c'est hyper important de les soutenir. C'est une grève qui est exemplaire. Donc on vous mettra aussi sur les réseaux sociaux le lien vers la caisse de grève. Et puis un dernier petit mot sur la grève des livreurs à vélo. Tout simplement pour vous dire que y a des livreurs à vélo qui se mobilisent en ce moment, hein, parce que évidemment là, ils vont être mis à rude épreuve particulièrement ces jours-ci et ces prochaines semaines de confinement, non confinement. Et bah, il se trouve que ce sera le sujet de la prochaine émission le lundi 9 novembre. Donc soyez bien là lundi prochain.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Ok, on est de retour avec Elliot, étudiant intérimaire, futur apprenti et syndiqué. Comment ça va, Elliot ?
Bien, bonsoir à tout le monde. Ça va, merci. Et toi ?
Ça va bien, ça va bien. On est ici pour parler de nos conditions de travail et plus particulièrement aujourd'hui de l'importance de se syndiquer, notamment en cette période de Covid-19, parce qu'on va le dire, les patrons et les chefs y font des dingueries. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter plus globalement ce que tu fais exactement dans la vie et peut-être nous présenter un petit peu tes orgas et tout ça?
Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis en recherche d'apprentissage. J'ai un parcours scolaire qui n'est pas très fluide. Moi, j'ai d'abord commencé par des études agricoles. J'ai voulu essayer l'université une première fois en sciences sociales, ça n'a pas marché. Et puis après, j'ai travaillé pendant 5 ans en intérim, avec différentes missions plus ou moins longues, dans différentes branches. Et j'ai aussi fait un service civique. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de reprendre les études. Parce que je me rendais bien compte que sans diplôme, sans qualification, c'était bien difficile de trouver un emploi, surtout un emploi stable. Et puis, de pouvoir se projeter dans la vie, dans le futur, et d'avoir des sécurités, tout ça, un logement, chose que j'ai du coup toujours pas aujourd'hui.
Ok, force à toi. Du coup, Adèle, tu peux lui poser quelques questions peut-être? Tu avais quelques questions à poser?
Bah ouais, j'ai quelques questions par rapport à ton parcours et puis le rapport avec le syndicalisme. Alors, d'abord, une première question. Donc, tu nous dis que tu es étudiant intérimaire. L'intérim, c'est assez spécial hein, comme manière de bosser. Qu'est-ce que ça t'a appris, l'intérim, sur le monde du travail?
Je dirais que ça m'a envoyé dans la tronche de plein fouet la précarité. En vrai, j'ai pas des très bons souvenirs de mes missions d'intérim, car c'est souvent des postes d'ouvriers non qualifiés. Donc, en gros, j'ai des tâches très répétitives, souvent des chefs qui sont assez humiliants, voire j'ai aussi connu un peu le harcèlement au travail. Et du coup, ouais, l'intérim, c'est, je sais pas, je dirais que c'est vraiment l'instabilité que ça m'a appris et d'être vraiment une chose qu'on manipule d'un endroit à l'autre et qui a aucune importance parce que intérimaire, dans le monde du travail, c'est comme si tu n'existais pas en fait. Tu rentres dans une boîte, bien souvent, on te la présente même pas, on ne présente même pas ton équipe. On ne te présente même pas ton poste, les règles de sécurité ni rien, on ne parle même pas du temps de pause, on ne parle même pas de s'il y a un endroit pour manger, s'il y a des toilettes, rien. On t'emmène souvent au poste et on te dit travaille, et puis voilà, tu travailles pendant 7 heures et tu te sens horriblement seul, souvent. Et puis tu repars, voilà, comme si de rien n'était. J'ai l'impression d'être fantôme en fait, en intérim.
Et au niveau syndical, quand tu es intérimaire, comment ça fonctionne et est-ce que tu as pu trouver un syndicat auprès duquel te syndiquer?
Eh ben, alors niveau syndicalisme, moi j'ai fait mes débuts dans le syndicalisme étudiant à l'université, donc j'ai découvert, en fait, depuis toujours j'étais convaincu du syndicalisme, mais je savais très bien aussi que syndicalisme rime souvent avec contrat. Indéterminé CDI parce que il y a la répression syndicale et que du coup c'est dangereux quand tu es en CDD, en intérim comme ça ou en contractuel aussi dans la fonction publique, vacataire, tout ça là, de faire partie d'un syndicat. Donc moi actuellement je me suis rapproché de syndicats du coup de salariés de la CGT Et en fait, en intérim, ils ne savent pas quoi faire de nous. Donc, souvent, ils nous mettent dans un syndicat multiprofessionnel. Et bien souvent, de ce que je sais, de ce que des camarades syndiqués me rapportent, c'est que on ne nous propose pas beaucoup de choses à faire et d'engagement militant, ce qui est, je pense pour moi, un peu plus dur à vivre parce que j'ai besoin de m'engager, de défendre ma condition et nos conditions du coup, parce que sinon j'ai du mal à m'en sortir et à voir le bout de cette situation de précarité.
Ouais, bah du coup, moi, j'ai été vacataire de la fonction publique et maintenant, je suis actuellement contractuelle et je suis syndiquée aussi. En tout cas, moi, dans mon syndicat, c'est plutôt l'inverse. On a du mal à mobiliser les agents, alors que certains agents sont fonctionnaires. Donc, on va dire, c'est comme un CDI, quoi. Adèle, toi, t'as des choses à dire sur le sujet?
Ouais, ben je trouve que c'est intéressant ce que tu as apporté, ce que tu as dit sur l'intérim et le fait que tu avais l'impression d'être en fait complètement transparent sur ton lieu de travail, qui est l'endroit où tu passes le plus clair de ta journée. Je trouve que l'enjeu principal, en fait, c'est que cette transparence que tu ressentes au boulot, tu la ressentes pas aussi au syndicat, quoi. Et que donc on puisse te proposer une forme d'engagement au syndicat qui soit en accord, on va dire, qui te mettent pas en danger face au patronat, mais qui te permettent d'être utile et de trouver ta place dans le syndicat, quoi. Et je pense qu'il y a des expériences syndicales qui existent, qui sont intéressantes. À la ville de Paris, par exemple, il y a un collectif des vacataires de Paris Musée qui s'est monté pendant la réforme des retraites. Et voilà, qui a pas mal bougé sur le fait que, en fait, c'est des vacataires qui sont embauchés juste pour les expositions dans les musées et tout. Et puis, dès que l'expo est finie, bye bye, quoi. Et donc, elles se sont mobilisées là-dessus en collectif avec l'appui des syndicats. Et j'ai trouvé ça assez intéressant que les syndicats viennent en appui pour les aider à s'organiser, mais que voilà, la démarche venait principalement d'elles, quoi. Sinon, j'ai une petite question à toi en tant que syndicaliste, puisque là, en ce moment, évidemment, on parle énormément de la crise sanitaire. C'est un peu sur quelles actions syndicales en temps de crise sanitaire, comment est-ce que les syndicalistes peuvent s'adapter à cette crise, c'est-à-dire au-delà des revendications, tout simplement créer du collectif au boulot, en fait, dans cette période difficile.
C'est un vrai défi du coup pour les syndiqués, pour les syndicalistes, mais pour aussi tous les salariés du coup, de faire face à cette crise qui du coup accentue déjà ce qui existe déjà, c'est-à-dire des inégalités ou des discriminations. Mais je pense que un des défis qu'on a déjà, c'est et mine de rien, je pense que les salariés se tournent quand même vers les syndicats pendant cette période de crise, puisque il y a une augmentation de la sollicitation, des demandes de salariés justement par rapport à leurs droits, par rapport aux droits d'alerte, aux droits de retrait, tout ça, par rapport à est-ce que le Covid va être reconnu comme une maladie professionnelle ou pas, ce genre de choses. Et tout ça, moi je suis convaincu que c'est des combats qui doivent être portés par des syndicats de lutte si possible. Je pense que c'est toujours informer, c'est toujours le premier truc à faire. Je pense en tant que syndiqué, syndicaliste convaincu que quand on milite et tout, c'est d'informer déjà les personnes qu'on défend, enfin puisqu'on se défend nous-mêmes du coup, de nous informer, de voir qu'est-ce que va faire l'État et le patronat par rapport à cette situation, et du coup de mobiliser en fait sur de manière, bon, là, on n'a pas le choix, quoi, c'est de manière défensive, puisqu'on se prend une crise dans la tronche, et que du coup, ça, qui dit crise dit souvent réduction de nos droits, et donc la défense de nos droits est vraiment, je dirais, encore plus essentielle que d'habitude, puisque là, ils sont en train de faire, de marcher dessus tranquillement. J'ai plus exactement d'exemple en tête, à part qu'ils faisaient sauter les jours de congé, par exemple, ou obligeaient les salariés à prendre leur congé pendant au lieu de les mettre en chômage partiel, ce genre de choses. Bon, ça prouve bien que il faut faire un rapport de force, quoi.
Carrément. D'ailleurs, je vais faire des petits rappels là actuellement. Donc, première chose, pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas syndiqués, qui savent pas comment ça marche, qui ont un peu peur, etc. J'aimerais dire deux choses. C'est vrai que ça peut être risqué de se syndiquer quand on est précaire. En revanche, il faut donc déjà premièrement bien se renseigner sur les syndicats de sa boîte. Se renseigner sur leur réputation, voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que ça peut arriver qu'il y ait des syndicats qui soient, on va dire, en cooptation avec la direction. Une fois que vous êtes sûr de ça, tout simplement, vous sollicitez le collègue, vous envoyez un petit mail, vous chopez le numéro, etc., et vous demandez à être syndiqué, c'est-à-dire que vous allez payer une cotisation sociale, enfin une cotisation au syndicat. Généralement, la CGT, c'est un pourcentage, c'est 1% du salaire. Mais voilà, s'il y a vraiment un souci niveau thune, si vous êtes précaire, vacataire, etc., faut pas hésiter à en discuter avec le camarade, on s'arrange. Et aussi, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être syndiqué et de s'exposer, en fait. On peut être syndiqué sans être exposé, c'est-à-dire qu'on paye sa cotise. On suit l'actu du syndicat par mail, pas forcément sur son mail pro d'ailleurs. Et puis voilà, si on a besoin d'aide, on est quand même épaulé. On est quand même épaulé, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on est syndiqué, on a droit à des heures syndicales, mais il faut savoir, en tout cas dans la fonction publique, tous les agents ont droit à 12 heures syndicales. Tu me reprends, Adèle. Est-ce que c'est aussi le cas dans le privé?
Ouais, c'est des journées. Tu parles d'heures ou de journées? C'est tout salarié, en fait, a droit à 12. Vas-y, ouais, vas-y. Tout salarié a droit à 12 jours de formation syndicale par an.
Et ça, voilà, et je parlais des heures d'information. Ouais, voilà, c'est ça. Et les heures d'information, c'est.
Oui, les heures d'information syndicale, c'est organisé par un syndicat représentatif. C'est une par mois. Ou 12 par an, en effet, ça peut être cumulé. Ouais. Par exemple, tu peux faire une réunion de 3 heures tous les 3 mois. Et ça, il faut que ce soit par contre déposé par un syndicat. C'est ouvert à tous les collègues, quoi. Mais il ne faut pas aussi oublier les jours de formation syndicale. Tu en as 12 par an où tu ne vas pas au boulot, tu vas en formation au syndicat, que tu sois syndiqué ou non syndiqué. Ça, c'est un truc énorme que peu de gens connaissent.
Ouais, et d'ailleurs il y a des super formations sur les techniques de négo, sur la communication, plein de choses. Alors par contre, ça, il faut savoir que voilà, si on prend les formations, on va forcément on va être exposé, en fait, puisque il faut quand même l'aval de l'employeur.
Ouais, c'est-à-dire que en fait, il peut te refuser pour nécessité de service, mais dans tous les cas, en fait, le syndicat envoie ta convocation à ton employeur, donc ils savent que tu fais une formation syndicale et avec quel syndicat. Donc en effet, voilà. si tu te sens pas hyper à l'aise, t'évites, quoi.
Voilà. Et puis deuxième chose, puisque Elliot il parlait des choses que les patrons ont essayé de nous arnaquer en cette période de crise. Donc, je rappelle qu'en ce moment, les jours de carence, que ce soit dans le privé ou dans le public, quand on est malade, ça n'existe plus. Donc, on est payé par la Sécu. Enfin, en tout cas, on touche son salaire dès le premier jour d'arrêt maladie. Et c'est aussi le cas pour les gens qui sont cas contact. Dans ce cas-là, il faut, si vous n'avez pas reçu un message de l'Agence régionale de santé pour vous dire que vous êtes cas contact, mais que vous savez vous-même que vous êtes cas contact parce qu'un de vos collègues vous a appelé ou quelqu'un de votre entourage, vous allez sur amélie.fr et puis là, vous pouvez remplir une attestation pour dire que vous êtes cas contact. Et dernière chose, donc je donne deux sites qui sont, on va dire, très importants pour se renseigner sur ses propres droits. Premièrement, tout simplement, c'est Légifrance. Vous allez sur Légifrance. Donc, c'est tout, tous les textes, tous les décrets, les arrêtés du gouvernement. Vous tapez les mots-clés qui vous intéressent et vous lisez les articles. Si vous y comprenez rien, vous prenez les articles et vous les envoyez à votre syndicat qui peut vous expliquer. Et aussi, spécifiquement sur le Covid, il y a luttevirale.fr qui est le site de la CGT et qui répond à toutes les questions que vous avez en rapport avec le Covid et le travail, notamment droit de retrait, droit d'alerte, télétravail, jour de carence et tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a encore une question pour Elliot ?
Ouais, Elliot, moi, ça m'intéresse un peu de savoir ton syndicalisme là où tu étais à la CGT avant et maintenant tu es aux jeunesses syndicalistes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les jeunesses syndicalistes et comment tu es passé de l'un à l'autre ?
Alors, je suis toujours dans les deux. Moi, je suis passé de solidaire étudiante, donc rattachée à l'Union syndicale solidaire, quand j'étais à l'université. Et c'est depuis peu, du coup, que je me suis rapproché de la CGT, en fait, par conviction syndicaliste. C'est-à-dire que je me suis retrouvé très vite dans ce que tout le monde brandit souvent dans le syndicalisme en France, mais qui est essentiel et propre, du coup, au syndicalisme français. C'est la charte d'Amiens. Et en fait, je me suis retrouvé très vite dans ce qu'ils appellent la double besogne dans la charte d'Amiens, c'est-à-dire de défendre nos droits, enfin nos conditions aujourd'hui, mais aussi avoir un projet pour transformer la société. Et en fait, de là, on va dire que ça fait une dizaine d'années que je milite dans différents mouvements qui se créent, mais ce sont des mouvements défensifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des réformes qui passent et que du coup, il y a un mouvement social qui naît, qui se construit pour faire face à cette réduction de droits que la réforme va faire passer. Par exemple, la réforme des retraites, moi, en 2010, ça a été mon premier combat que j'ai rejoint. Mais en fait, après tout ça, ce qui revient toujours, c'est que je me dis, si je ne fais pas partie d'une orga, il n'y a aucune trace historique de ce qu'on a fait, en fait. J'ai l'impression que tout va tomber aux oublis ou alors dans les archives, mais il n'y a pas un collectif qui est organisé, qui se construit sur le long terme. Et ce que j'aime beaucoup avec la lutte syndicale, et pourquoi aujourd'hui je jure presque plus que par ça, c'est que c'est un des mouvements, enfin c'est parce que je me réclame du mouvement ouvrier en fait, et non plus d'idéologie ou de philosophie politique, même si le mouvement ouvrier a été beaucoup influencé par des idéologies politiques révolutionnaires de la grande famille socialiste, que ce soit communiste, anarchiste ou d'autres socialistes, plus ou moins radicaux. Et en fait, donc ouais, pour moi, la CGT, c'est l'organisation historique en France, donc c'est celle qui a le plus grand tissu social sur le territoire français, donc c'est celle qui a aussi, pour moi, par son plus vieux développement et sa plus vieille expérience, celle qui m'attirait le plus. Et puis en fait, je me suis retrouvé, un jour, je suis tombé sur les comités syndicalistes révolutionnaires. Et donc, c'était à force de... Je profitais de mon année universitaire pour lire des bouquins d'histoire et de sociologie sur le syndicalisme, les mouvements sociaux et tout. Et j'arrivais pas à faire la différence entre syndicalisme révolutionnaire, anarcho-syndicalisme, syndicalisme tout court, syndicalisme... Après, il y a plein d'autres syndicalismes dont on pourrait parler, mais bon, c'est pas le sujet, mais... Mais je sais que je voulais être dans un syndicaliste de lutte. Et donc, en fait, j'ai découvert les comités syndicalistes révolutionnaires, qui sont donc une société de type socialiste, donc une société sans classe, sans État, mais qui, contrairement aux idéologies, propose d'y arriver par des solutions très concrètes et pratiques, par la lutte syndicale, et non par juste le fait d'adhérer à une idéologie ou une pensée philosophique qui serait révolutionnaire. Même si moi, par rapport à mon parcours, j'y suis arrivé jusqu'au syndicalisme, même si j'y pensais quand même depuis longtemps. Donc, dès que j'ai commencé à travailler, donc dès que j'avais 17-18 ans, je pensais déjà à me syndiquer. Mais c'est comme on disait, bon, quand on est dans un contrat précaire, c'est compliqué de se syndiquer, on ne sait pas vers qui se tourner souvent, enfin bref. Et on n'a pas envie de s'exposer, tout ça, ça peut faire peur, tout ça. Et donc, les comités syndicaux révolutionnaires, je m'y suis retrouvé et je m'y investis petit à petit. Et donc, je vous invite, si vous avez envie, à aller voir sur Internet. Ils ont un site Internet. Nous avons aussi une page Facebook. Et je crois que c'est déjà pas mal. Et donc, après, de là, en fait, avec les comités syndicaux révolutionnaires, je me suis, en allant sur leur site, ça m'a permis d'avoir qui m'a fait faire un bond en avant, en fait, sur ce qu'était le syndicalisme et comment il pouvait être plus combatif et même vaincre. C'était revenir, en fait, sans revenir en arrière dans un sens de nostalgie du passé, mais bien analyser comment le syndicalisme en France a permis d'avoir des grandes avancées sociales, comme la sécurité sociale, comme les conventions collectives, comme la fin du travail des enfants, comme la journée de 8 heures, comme le SMIC. Tout ça, en fait, on s'en rend souvent pas compte parce qu'on voit ça comme acquis quand on est dans la société. Et puis, en plus, tout ça est bien récupéré, instrumentalisé par l'État et le patronat, la bourgeoisie, tout ça. Mais c'est dû, en fait, à des gens qui ont lutté. Et quand on me dit depuis toujours, il faut se souvenir de ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, ce genre de phrase-là, moi, ça m'a beaucoup marqué. Donc, en fait, en regardant dans le passé et ce qu'a fait les grandes luttes syndicales du mouvement ouvrier, ce à quoi je me réclame aujourd'hui, bah, je suis arrivé vers la CGT, vers les comités syndicalistes révolutionnaires et du coup, finalement, par les jeunesses syndicalistes et qui n'est non pas, contrairement à ce qu'on pense, une simple orga de jeunesse qui voudrait... encore une fois, organiser la jeunesse, fantasmer sur son potentiel révolutionnaire ou quoi. Loin de là, en fait, c'est juste que la jeunesse syndicaliste serait un organisme à la base historique interne à la CGT au début des années 1900 qui a permis en fait d'organiser la jeunesse prolétarienne donc, qui se destinait au salariat le plus tôt possible dans des syndicats de branche. Et en fait, le syndicalisme révolutionnaire se réclame d'un syndicalisme d'industrie ou syndicalisme de branche. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'aujourd'hui, la tactique syndicale est de faire des syndicats d'entreprise. Et donc, par exemple, pour moi, hein, une des critiques qu'on peut avoir sur le syndicalisme d'entreprise, parfois, c'est de dire bah, dans une entreprise travaillent des salariés permanents et permanentes, par exemple en CDI, qui sont syndiqués au syndicalisme d'entreprise. Par contre, la société qui fait venir, par exemple, les femmes de ménage pour nettoyer les locaux, elle, c'est une autre entreprise. Donc, il faudrait un autre syndicat d'entreprise. Et le problème, c'est que la critique des syndicats révolutionnaires, c'est de dire, bah, en fait, on crée une multitude de petits syndicats comme ça qui sont souvent en fait dans la même branche, qu'on pourrait réunir au sein d'un même syndicat local de branche. Par exemple, si on est dans la métallurgie, eh ben, on syndique toutes les personnes d'une localité, donc à l'échelle d'une union locale, par exemple, pour prendre l'exemple de la CGT, donc souvent d'une ville, mais bien souvent, ça va bien aussi au-delà d'une ville. Mais pour dire, voilà, si des personnes travaillent dans la métallurgie, qu'elles soient les personnes en poste sur les machines, que ce soit les personnes qui fassent le ménage, que ce soit les personnes qui soient... plus, j'en sais rien, moi, genre qui pense plus à la conception, tout ça, et ben de plutôt de recréer en fait la division du travail qui existe dans la société capitaliste, donc de l'isolement en fait que crée le capitalisme, et ben on va rassembler les salariés dans des mêmes syndicats de branche. Et donc on aura, au lieu d'avoir plein de petits syndicats souvent qui ont du mal à tourner et à avoir de l'énergie et à plus être dans quelque chose de combatif plutôt que de défensif. Voilà, moi je pense que ça peut être une stratégie. C'est un peu mon explication, mais je pourrais en parler longtemps, vu que j'ai passé du temps. Et les jeunesses syndicalistes, en fait, ça serait faire la même chose, mais en fait, ça permettrait une syndicalisation à vie des jeunes, donc prolos, qui se syndiqueraient dès leurs études, en fait. À partir du moment où ils ont choisi une formation et qui se destinent à travailler dans une branche, eh ben, la stratégie révolutionnaire du coup des jeunesses syndicalistes qui rejoint un peu celle des CSR et du coup l'origine historique de la CGT, ça ferait que ces jeunes-là soient directement syndiqués aux jeunesses syndicalistes dans leurs locaux en fait de branche. Donc si on a des jeunes par exemple qui sont dans le bâtiment eh ben, il serait, je sais pas moi, on va prendre un exemple comme la ville de Lyon. Les jeunesses syndicales, syndicalistes seraient rattachées au syndicat local du bâtiment, qui du coup, dans ce syndicat-là, se mélangeraient les jeunes en formation et les personnes qui sont déjà salariées. Et du coup, en fait, on pourrait avoir une défense de nos conditions de vie dès le début, en fait, de notre phase de qualification, de notre professionnalisation, du fait qu'on va obtenir des diplômes, jusqu'au moment, en fait, jusqu'à la fin de notre vie, on soit retraité et qu'on défende aussi nos droits, la sécurité sociale, à la retraite, tout ça. Donc, ça serait, en fait, avoir une syndicalisation à vie.
Ok, bah merci Yop, c'était très intéressant. Du coup, je crois que on peut te remercier pour toutes ces infos que tu nous as données, et puis ton témoignage qui est hyper important. Et donc on te remercie, et puis on va passer à la suite de l'émission.
Donc, petit intermède musical.
Bah, merci à vous.
Bring Me Out de Bob Andria, et merci encore Elliot, c'était super intéressant.
À bientôt, merci.
À bientôt. C'était Bring Me Out de Bob Andria. C'est plutôt d'actualité en cette période de confinement. Du coup, on va accueillir tout de suite Gomette qui va se présenter en fait. Salut Gomette.
Est-ce qu'on m'entend?
Oui, nickel, on t'entend. Comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va bien, ça va bien. Tu peux te présenter vite fait, nous dire dans quoi tu bosses, quel est ton statut et tout ça.
Alors, du coup, moi, je suis étudiante et ça fait 5 ou 6 ans que je travaille régulièrement dans une maison de retraite pour financer mes études. Et donc, là, du coup, comme j'ai du temps, j'ai repris il y a quelques jours dans cette maison de retraite, et donc j'ai découvert un peu les conditions de travail avec le Covid. Et c'était de ça un peu que je voulais parler ce soir.
Ok, du coup, bah, donc en ce moment, tu bosses. Bah, écoute, dis-nous ce que t'as à nous dire. C'est vrai que du coup, dans les maisons de retraite, ça doit être assez particulier. Surtout que du coup, tu es avec un public qui est à risque. Du coup, bah voilà, dis-nous tout.
Alors, dans les maisons de retraite, en général, il y a un problème au sens où il n'y a pas suffisamment de personnel, en fait. Il faudrait qu'il y ait plus de postes pour pouvoir réussir à faire tout le travail qu'il y a à faire correctement. Et là, avec le Covid, il y a beaucoup des travailleurs, en fait, qui sont malades. Et donc, il y a énormément de remplacements à faire. Il y a des salariés qui sont obligés de revenir pendant leurs vacances, obligés de revenir pendant leurs jours de repos. Et il manque tellement de monde maintenant à cause de tous ces salariés malades qu'ils sont obligés de recruter, mais c'est pas suffisant. Et moi, d'habitude, je fais un travail d'ASH, c'est-à-dire que je sers les repas, que j'aide à cette préparation-là, un peu de ménage, etc. Et là, en fait, moi, je me suis retrouvée sur un poste d'AS, c'est-à-dire un poste d'aide-soignante. Donc, j'ai pas de formation là-dessus. Moi, je suis donc étudiante dans un domaine qui a rien à voir. Et là, je me retrouve sur un taf d'aide-soignante, à faire des toilettes, à faire manger des personnes âgées.
Donc, on t'a complètement catapulté là-dedans, sans formation.
La première journée où j'ai travaillé, on a mis une aide-soignante en plus pour essayer de... Comment dire ? Bah moi, je suis très longue pour faire une toilette parce que c'est vraiment pas quelque chose que je sais faire. Donc, on a mis une salariée en plus pour essayer de compenser ce manque. Mais depuis, c'est plus le cas. Et donc, je me retrouve à faire des journées entières à faire des toilettes et je perds beaucoup de temps. Et donc, du coup, les autres aides-soignantes qui sont là sont obligées de travailler encore plus que d'habitude pour pouvoir réussir à combler ce temps que j'ai perdu.
Et donc, alors déjà, il y a un problème du coup de sous-effectif en ce moment, enfin en général déjà, je pense,
oui.
Et en ce moment en particulier. Et on entend souvent parler, en fait, on va dire, de cas de maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite. Et je pense qu'en fait, tu vas me le dire, mais c'est sûrement très lié justement aux conditions de travail des personnes, enfin des aides-soignantes, des aides-soignantes et de tout le personnel qui encadre ces personnes, parce qu'une toilette c'est quand même pas rien, c'est quand même entrer dans l'intimité d'une personne il faut quand même une formation, il y a des gestes, etc. Et donc là, on t'a catapulté là-dedans en prétextant la crise sanitaire, en fait, c'est ça?
En fait, ils m'ont mis là-dedans parce qu'ils n'ont plus personne, en fait. Ils trouvent pas assez d'aides-soignants pour pouvoir travailler là-dedans. Et donc, ils avaient presque pas le choix, je sais pas comment on peut dire, mais ils arrivent vraiment pas à trouver du monde. Les gens reviennent pendant leur congé, c'est ce que je disais. Et par rapport à la maltraitance, je sais pas à quel moment on peut parler de maltraitance, mais par exemple, ce week-end, il y a des personnes qui, d'habitude, c'est des personnes qui n'ont pas de... qui n'ont pas de mobilité, quoi, qui normalement sont mis au fauteuil pour pas rester toute la journée allongés dans le lit. Ce week-end, beaucoup de gens n'ont pas pu être au fauteuil, on les a laissés dans le lit parce qu'il n'y avait pas le temps, quoi.
Oui, je comprends bien. En fait, c'est justement, c'est un peu des cas comme ça. Oui, on va dire que à quel point on peut parler de maltraitance, mais on va dire que oui, voilà, c'est un peu ça qui peut être souligné, en fait. La dégradation des conditions de travail du personnel soignant et encadrant peut entraîner des traitements inhumains envers les personnes qui sont dans ces structures. D'ailleurs, je crois qu'il y a vraiment en ce moment une pénurie, puisque ma mère, elle est aide à domicile et sa boîte cherche du monde, et je crois qu'ils n'arrivent pas à en trouver parce que ça fait, je crois, des semaines que je vois affiché devant la boîte de ma mère un gros message comme quoi ils recrutent, et en fait je pense qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu penses que c'est une conséquence de la première vague, de ce à quoi ont dû faire face les personnes qui étaient là pendant la première vague?
Pas exactement, parce qu'en fait, pendant la première vague du coronavirus, le virus n'est pas rentré dans la maison de retraite. Toutes les maisons de retraite ne sont pas touchées. Et donc, du coup, pendant la première vague, ils ont eu une réorganisation à faire avec le changement... les changements pour les visites, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas pris le coronavirus de plein fouet comme ils sont en train de le prendre actuellement. Parce que du coup, là, ça y est, la maison de retraite est touchée. Et donc, les gens sont en contact tout le temps avec des résidents qui, pour une grande partie, sont malades. Enfin, moi, dans le service dans lequel je suis, il y a 60-65 résidents. Et là, il y en a actuellement 23 qui ont le Covid. Et ça fait que commencer, en fait.
Punaise. Bah, j'espère que le gouvernement va prendre des mesures prochainement, parce que là, c'est une hécatombe, quoi. C'est Voilà, voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou pas?
Oui, il y a aussi, donc ça c'est par rapport à ce que vivent les soignants. Les soignantes, je voudrais rajouter que ben il y a de la peur qui commence à s'installer. C'est pas les cas de tout le monde et je sais pas si cette peur est totalement justifiée par rapport aux équipements nouveaux qu'on a, mais il y a des, enfin, le premier jour où j'ai travaillé, j'ai croisé deux agents d'entretien dans le couloir qui étaient en train de s'engueuler parce que aucun ne voulait aller dans les chambres Covid. Et j'ai des collègues qui à la pause le disent, disent bah moi je suis désolée hein, je le dis, mais enfin j'ai peur quoi. Donc ça c'est quelque chose. Et si je peux rajouter un dernier truc, il y a ben les conditions de vie des résidents actuellement. Parce que du coup, ils sont totalement obligés de rester dans leur chambre et ils ne peuvent plus, enfin, plus sortir de leur chambre. Toutes les activités ont été annulées. Il n'y a plus de self, donc il y a, enfin, le midi et le soir, donc ils peuvent pas communiquer entre eux. Ils ont, voilà, les sorties, les activités sont totalement annulées. Donc en fait, ils sont dans leur chambre et il y en a qui ont rien à faire dans leur chambre et qui s'ennuient et qui manquent de contact social et ouais, c'est assez dur là. Depuis 2 jours, il n'y a plus de télé parce qu'il y a un bug. Vraiment, enfin, c'est des conditions de vie qui doivent être assez dures là.
Ouais, bah ouais, c'est un peu, on va dire, le pendant, le second pendant de la pandémie, parce qu'on pense forcément, on pense au côté santé, au côté où on attrape le Covid et voilà, c'est ça a des conséquences assez dramatiques sur le physique. Mais il y a aussi des conséquences sociales très importantes. Et du coup, je pense que c'était très important qu'on entende ton témoignage ce soir. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné de tout ça. Même si c'est pas réjouissant, c'est la réalité. Il fallait qu'on l'entende. Et du coup, ben, si tu n'as rien d'autre en plus à ajouter, on va passer à la suite.
Ok, bah, je pense que c'est bon pour moi.
Je te remercie beaucoup, Gomez.
Merci.
Et du coup, à bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée. Et maintenant, on va passer une petite capsule sonore d'une intermittente qui nous a fait le témoignage de ce qui se passe dans sa profession maintenant.
Bonjour Radio Pirate, je m'appelle Paprika, je suis présente sur Twitter et je travaille dans le dessin animé. J'ai vu votre appel pour faire un podcast sur le travail, le syndicalisme, le Covid et la lutte. Moi, dans le dessin animé, c'est un peu compliqué parce qu'on est quasiment tous des intermittents et intermittentes du spectacle, avec des contrats qui oscillent entre quelques semaines et plus d'un an de travail pour une même boîte. On est très très peu syndicalisés, d'abord parce qu'on est un corps de métier très jeune, et moins de 35 ans en général. On est aussi un corps de métier qui est très blanc et bourgeois, ce qui fait que avec déjà de base, on connaît pas très bien nos droits sociaux. Et avec le Covid, ça s'arrange pas. On a beaucoup de gens qui doivent travailler sur place parce que les entreprises ne veulent pas mettre en place du télétravail, alors que c'est pas excessivement compliqué à faire. Sachant que même si on met en place du télétravail, pour nous, c'est pas forcément toujours une solution non plus. Puisqu'on vit pour une grande majorité dans Paris et l'Île-de-France, dans des appartements pas très très grands, et que l'installation informatique pour travailler implique d'avoir un espace suffisant. J'ai eu pendant le premier confinement des amis qui ont essayé de travailler de chez eux, qui ça avait été proposé par leur boîte, et ils n'ont pas réussi à tenir plus de quelques semaines, c'était impossible de travailler dans de bonnes conditions, ce qui fait qu'ils ont dû s'arrêter, et pour nous, il n'y a pas de chômage partiel. On a eu une annonce comme quoi on avait une année blanche, c'est-à-dire que on n'aurait pas à renouveler notre statut d'intermittent et Pôle emploi continuerait de nous verser nos allocations, mais uniquement pour ceux qui étaient déjà inscrits et déjà reconnus comme intermittents du spectacle, ce qui fait que tous les gens qui sortaient d'école et qui n'avaient pas eu encore leurs heures pour la première fois, donc pas encore le statut d'intermittent, n'ont pas pu avoir accès à l'allocation, à l'année blanche, et se retrouvent sans aucun sou et avec beaucoup plus de difficultés pour trouver du travail, soit parce que bah, ils veulent pas la retourner dans des entreprises parce que ça les gêne, soit ils y vont, Mais certaines ont aussi ralenti leur cadence du fait du Covid et du confinement, du premier confinement et du reconfinement. Et ça risque de nous toucher à terme assez fort. De manière générale, dans la lutte, on est un milieu important en France, enfin important, c'est, tout est relatif. On est entre 6 et 7 000 personnes qui travaillent dans l'animation, je crois. On est le programme audiovisuel qui s'exporte le mieux à l'international, le programme audiovisuel français. Et aussi bien que pour le jeu vidéo, on est une industrie qui est assez florissante et qui ne souffre pas trop, ou en tout cas beaucoup moins, de la récession que d'autres. Pourtant, on galère un petit peu et on sait que ça, on va pas être aidé dans les années à venir parce que on n'est pas une industrie qui intéresse beaucoup les gens. On fait que des petits Mickey et ça brasse quand même un peu moins d'argent que par exemple le jeu vidéo, qui sont des collègues qui sont très très proches de nous, qu'on connaît assez bien. Et à cause de ça, c'est très très difficile de faire entendre nos voix. Il y a des abus dans les entreprises qui sont mais banalisés, des choses complètement illégales dans les heures supplémentaires, dans le type de contrat proposé. C'est vraiment devenu chose commune. Et on n'a rien pour nous aider parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de se faire blacklister, comme on est un milieu qui travaille beaucoup au bouche à oreille. Donc on est très peu de syndicalisés, mais même très très peu de militants. Et on se retrouve avec des gens qui préfèrent pas trop l'ouvrir pour pas risquer de ne pas retrouver de travail. On peut pas les blâmer, mais à côté de ça, ça risque de finir à terme pas nous retomber dessus. Et moi personnellement, qui suis militante féministe, mais aussi pour la lutte des droits sociaux, je ne sais plus trop quoi faire dans notre milieu. Et ça, qu'avec le Covid, ça va aggraver encore les situations. Donc on aimerait bien faire entendre nos voix, peut-être. Enfin, on est un petit groupe qui aimerait faire entendre nos voix, mais faut croire que les dessins animés pour les enfants, ça intéresse pas grand monde, et que finalement, c'est ce qu'on produit. Les parents ou même les adultes qui nous regardent, ils s'imaginent que c'est des petits Mickey qui appuient sur des boutons derrière leurs ordinateurs, parce que personne s'intéresse beaucoup à ce qu'on fabrique et à ce qu'on produit pour l'Est de la France. Après, si les gens veulent suivre un petit peu ce qui se passe, on a quand même trois syndicats qui travaillent avec nous, mais qui sont pas vraiment spécialisés dans l'animation, sauf un qui est évidemment le moins puissant et le moins reconnu des trois. Et on a un collectif, l'UNDIA, qui travaille pour tout l'audiovisuel et qui s'intéresse un petit peu à la cause de l'animation. Mais encore une fois, on n'est pas très très écouté, on n'est pas très très puissant. Et dans les années à venir, ça risque de devenir de plus en plus compliqué, ne serait-ce qu'avec la suppression de France 4. Et voilà. C'était ma petite capsule à moi sur mon milieu très très spécifique, l'industrie, un tout petit bout de l'industrie audiovisuelle. Je sais que pour d'autres, dans le live, donc dans la prise de vue réelle, que ce soit dans le cinéma ou la télé, il y a des problèmes communs, notamment sur certains postes comme le montage, et qu'on gagnerait à être entendu par les gens du cinéma et par les gens de l'audiovisuel, parce que finalement on lutte tous et toutes pour avoir des droits sociaux, une reconnaissance, des meilleures conditions de travail, ce qui est malheureusement souvent pas le cas. Merci de m'avoir écouté et bon courage avec Radio Pirate. À bientôt.
On est de retour sur notre émission après cette capsule et merci beaucoup à la copine intermittente pour son témoignage super intéressant. Alors, du coup, maintenant, on va enchaîner avec un nouvel invité qui a répondu à notre appel. Et cet invité, c'est Paul. Paul, es-tu là? Comment vas-tu?
Je suis là, bonsoir. Ça va, et toi?
Écoute, Paul, salut à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Etc.
Bien, alors j'ai 21 ans, j'ai fait une licence de STAPS et cette année je suis, en plus de mon service civique, animateur périscolaire dans les écoles primaires dans le sud de la France.
D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire avec quel statut tu bosses, par exemple, pour commencer?
Pour l'instant, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu entends par statut exactement?
Pardon, t'es vacataire?
Pas encore. Alors si, je suis vacataire de l'entreprise, de l'association qui m'a embauché, c'est ça.
Ouais,
c'est
d'accord. Bien, okay. Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Comment ça se passe au taf? C'est la rentrée scolaire.
Eh bien, c'est tendu. C'est un peu en flux tendu parce qu'il y a pile le nombre d'animateurs qu'il faut. Donc, quand quelqu'un est cas contact ou quand quelqu'un est malade, il manque forcément un animateur. Le problème avec le nouveau protocole, c'est qu'il faut pas mélanger les classes. Or, on est obligé de le faire quand il manque un animateur, voilà, c'est ça le problème. Donc, on est un peu en surtension en ce moment.
En surtension, ouais, j'imagine que ça pèse et que ça pèse aussi sur le moral. Est-ce que tu te sens protégé au boulot?
Pas vraiment. Depuis la rentrée de septembre, les enfants personne n'avait de masque, hein, c'était pas conseillé. Donc, certains animateurs disaient même aux enfants de ne pas porter leur masque quand ils en avaient un. Donc ça, c'était pas très possible. Depuis aujourd'hui, ils en ont. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué pour eux de comprendre qu'il faut le garder en permanence. Et donc, voilà. Quand ils viennent te voir, te parler à moins d'un mètre, qu'ils n'ont pas leur masque sur eux. Bon, c'est vrai qu'on se pose des questions.
Bah ouais, bien sûr. Et du coup, vous avez pu en parler entre collègues, ou peut-être avec les enseignants ou le réseau de personnel de l'école. Vous en avez discuté. Qu'est-ce que ça dit, en fait, dans le collectif de travail?
Bah, pour l'instant, on n'a pas pu en parler. J'ai eu une réunion aujourd'hui qui nous exposait le protocole sanitaire qui était applicable à partir d'aujourd'hui, donné par l'État. C'est vrai que bon bah il est bien plus dur, hein. Il faut faire attention à ce que tout le monde ait bien son masque, on se lave les mains 3 fois en 1 heure, à chaque fois qu'on rentre dans une classe ou qu'on en sort, ça fait beaucoup de tension. Il faut expliquer tout aux petits, donc pour l'instant ça fait beaucoup de choses à rajouter dans notre travail quotidien, quoi. Il faut qu'on l'intègre nous-mêmes déjà et qu'on arrive à l'expliquer.
Ok. Eh bien, écoute, c'est très clair et très intéressant ce que tu nous dis, mais j'ai l'impression que tu ne nous dis pas tout. Qu'est-ce que tu voudrais dire à l'éducation nationale, là? Si tu avais le ministre de l'éducation nationale devant toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire par rapport à cette situation un peu ubuesque, là?
Ah ben, ce qu'il faudrait faire, pour moi, ce serait de fermer les écoles, parce que j'ai l'impression, ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, bon, ben, je vais rejoindre mon cluster, pour aller travailler, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas trop intelligent de faire d'ouvrir toutes les écoles jusqu'au lycée avec des gosses qui ne comprennent pas forcément la situation.
Ouais, ça donne l'impression en tout cas qu'ils n'ont pas du tout pris la mesure de la situation, ou bien ils ont pris la mesure de la situation, mais le problème c'est que si les enfants restaient à la maison, les parents pourraient pas aller bosser. Et c'est impensable pour eux qu'on n'aille pas bosser et produire. Donc en fait, l'école, ça devient un peu une garderie.
Voilà, c'est ça, exactement.
Pour le patronat, quoi.
Oui, puis en plus, on le sent bien, puisque la mairie qui distribue un masque par enfant, qui fait 10 lavages, c'est vraiment pour faire la rentrée. Et puis ensuite, c'est à eux de se débrouiller, aux familles de se débrouiller pour leur fournir leur masque. C'est vraiment, bon, bah, vous venez là pour la semaine, et puis après, on verra plus tard, quoi. On met les enfants à la garderie, puis comme ça, les parents peuvent aller travailler. Puis, aussi, on avait discuté avec mes collègues, comment on avait été traités nous-mêmes par notre association qui nous emploie. C'est que notre association nous a mis à disposition, début octobre, 10 masques, chacun, qui sont utilisables une seule fois. Et c'est 10 masques pour le mois, quoi. Et donc ils étaient en train de se disputer un peu avec la mairie pour qu'ils nous la fournissent. Mais au final, ça fait un mois qu'on attend et personne n'a reçu de masque en plus.
Ok, donc là il y aurait sans doute un truc à faire avec les collègues, parce que ça c'est quand même la base. Aujourd'hui, c'est d'avoir un masque. En plus, maintenant, des masques, il y en a. Donc ils devraient pouvoir vous en fournir quand même. Merci beaucoup, Paul, d'être venu nous donner ton témoignage sur ce qui se passe dans ton école et plus généralement à l'éducation nationale. Mmh. C'était super intéressant et on va continuer notre soirée. On va te souhaiter une très bonne soirée alors.
Merci
bon
à vous.
Courage surtout. Merci.
Bonne soirée, Paul. Donc, nous revoilà, me revoilà, me revoilà. Maintenant, ce qu'on va faire avec Adèle, c'est que on n'a malheureusement pas pu mettre tout le monde à l'antenne libre. Il y en a beaucoup d'entre vous qui nous ont envoyé des textes, en fait, directement sur les réseaux sociaux pour témoigner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lire tout simplement les témoignages qui nous ont été envoyés. Donc, je vais commencer avec le témoignage de Bloody Gencive, libraire en grande distribution. Donc, c'est pas mal d'actualité puisque les amoureux du livre se sont pâmés du fait que les librairies ont été fermées. Et depuis, en fait, entre-temps, le gouvernement, enfin, il y a la gauche qui a porté un petit peu ça, qui a voulu rouvrir, enfin, pas que la gauche d'ailleurs, non, je dis n'importe quoi, mais les politiques qui ont porté ça, qui ont voulu dire qu'il fallait rouvrir les librairies à tout prix. Il y a les écrivains qui se sont mobilisés entre guillemets pour exiger la réouverture des libraires. Et ce n'est pas du tout de l'avis des salariés des librairies, tout simplement. Et donc voilà, je vais vous lire directement le témoignage de Bloody Gencive. C'est parti. Je travaille pour une enseigne de distribution au rayon livre. Comme la plupart des Français, j'ai été en chômage partiel pendant 2 gros mois. J'ai plutôt bien vécu mon confinement puisque je suis quelqu'un qui recherche beaucoup de solitude et ces 2 mois m'ont permis de me recentrer sur les choses qui me passionnent comme le cinéma, la littérature et la musique. Remettre au dessin a également été très thérapeutique et m'a aidé à surmonter toutes sortes d'angoisses. Le déconfinement a été violent. Beaucoup de mes collègues étaient heureux de pouvoir à nouveau se sentir utile et côtoyer d'autres êtres humains. Me concernant, il a fallu un certain temps d'adaptation. Ça a plutôt été grosse dépression. Tous les projets que j'avais commencés pendant le confinement se sont progressivement cassés la gueule. Je n'avais plus de temps pour moi. Nous sommes passés d'un pays qui hiberne à un pays fumant. Si vous lisez un peu les témoignages récents de libraires qui travaillent dans la grande distribution, beaucoup sont exténués et pour cause. La reprise depuis mai, et sans discontinuer, a été vécue comme une période de Noël sans repos. Il n'y a pas, dans ce genre de grande surface, d'image romantique du libraire, ou alors elle n'existe plus. Si je peux me permettre de parler au nom de mes collègues, je tenterai de dresser une image rapide du libraire de la grande distribution actuelle. Ils doivent être approvisionnés en permanence, il doit se montrer souriant et avenant avec les clients pour espérer augmenter son panier moyen. Il doit être vigilant quant aux réservations par Internet qui arrivent sur son téléphone pro, sous peine de recevoir un appel du manager qui lui demande de s'en occuper au plus vite. La liste est longue et je pourrais en rajouter des tas. Il faut savoir que dans ce genre d'entreprise, un libraire, appelé conseiller de vente, peut être appelé à jeter sa veste pour revêtir celle de l'hôte de caisse quand les clients sont trop nombreux. Aussitôt la ligne de caisse débloquée, il faut revenir au rayon et continuer sa besogne. Gérer les flux de marchandises, procéder au retour des livres anciens qui ne se vendent plus, gérer la réservation par téléphone et sur Internet, conseiller les clients, faire la police avec les clients non masqués, ranger les bouquins abandonnés dans les mauvais rayons, faire les poussières, recevoir les représentants des fournisseurs, etc. Et dans tout ça, il faut trouver le temps de lire et de faire des coups de cœur. Et dans tout ça, sachez aussi qu'un conseiller de vente, entre guillemets, n'a pas un seul rayon dont il est spécialiste. Dans certains cas, un libraire de chez Cultura devra gérer la littérature, dont la rentrée littéraire, le parascolaire, dont les cahiers de vacances et la rentrée scolaire, et le polar. 3 énormes rayons qui, depuis le déconfinement, ne désemplissent pas niveau chiffres. Actuellement, nous alternons entre chômage partiel et semaine travaillée. L'entreprise a tenté d'ouvrir son magasin pour, je cite, faire comme la FNAC, parce que si eux, ils ont le droit, pourquoi pas nous? Mais c'est tombé à l'eau, heureusement. L'entreprise nous protège, elle nous fournit des masques, a tout mis en œuvre pour sécuriser les employés et ses clients, mais il reste interdit de parler de sa souffrance au travail, de montrer ses faiblesses et son épuisement. Il faut faire avec les équipes réduites, le personnel toujours confiné chez lui à cause de la situation. C'est le chiffre qui est important. Les Français ont énormément consommé depuis le déconfinement. Nous n'en pouvons plus. Nous ne voulons pas de la réouverture des librairies. Ceux qui ploient devant les patrons, ceux qui acceptent Le boulot ces temps-ci sont les employés en CDD qui savent que l'avenir sera rude et qu'il faut s'accrocher malgré l'angoisse, l'épuisement et cette terrible sensation de n'être qu'une main qui va et vient pour faire tourner la machine. Vous pouvez très bien vous passer à nouveau de livres. Enfin, vous pouvez très bien vous passer de nouveaux livres. Lisez les classiques, lisez sur vos ordinateurs, écrivez. Ce message sera reçu par nos grands amateurs de livres qui ne pensent qu'à leur gueule, on peut le dire comme ça, je pense. On va faire une dernière lecture. Donc, je vais laisser Adèle faire la lecture suivante. Et ensuite, on va conclure parce qu'on est déjà à plus d'une heure d'émission. Et ne vous inquiétez pas si vous nous avez envoyé un texte et qu'on n'a pas pu le lire aujourd'hui, ou des capsules d'ailleurs. On les lira à la prochaine émission et on fera du montage sur le podcast de cette émission. Adèle, c'est à toi.
Yes, et ben on va passer au témoignage de Maresque, qui est un ancien délégué du personnel et syndical dans une agence de marketing d'influence. En plus d'introduction, je vais vous lire le texte de Maresque. Au printemps 2016, je quitte mon agence de com' pour rejoindre une agence de marketing d'influence. Prendre tout ce qui touche les campagnes de pub, impliquant les youtubeurs et les youtubeuses, les instagrammeurs et les instagrammeuses, etc. Au départ, nous ne sommes que 8, dont 2 stagiaires, mais la boîte grandit vite, et le nombre de salariés atteint les 20 dès l'automne. Alors des élections de délégués du personnel sont organisées, avec à la clé un poste de titulaire, un poste de remplaçant. Je décide de me présenter avec les encouragements de mes collègues, mais sachant que j'ai beaucoup de lacunes sur les sujets liés au droit du travail. C'est pourquoi je me suis rapprochée d'un syndicat en me disant que ça ne pourrait être qu'un plus. Je suis élue et je deviens donc syndiquée par la même occasion. Ça tombe bien, l'agence est en défaut sur beaucoup de points du Code du travail et de la convention collective. Par exemple, elle ne respecte pas les minima sociaux prévus par la convention, ou encore certains délais de congés prévus par le droit du travail. Mais en plus, il y a des problèmes individuels. Il y a aussi les problèmes individuels des salariés qu'il faut résoudre. Le management toxique, le harcèlement, les contrats de travail, etc. Plusieurs salariés de la boîte sont d'ailleurs arrêtés pour burn-out ou dépression à cause du comportement d'une personne qui a un poste à la direction. Et d'ailleurs, la direction lui accorde une certaine indulgence et une protection. Je peux donner de nombreux exemples, mais bon, ce serait long à écrire. Avec mon collègue élu au poste de remplaçant, quand il a du temps, on potasse la convention collective, le code du travail, les blogs et les sites de juristes spécialisés, essayant de résoudre tous ces problèmes. Naïvement, je pensais qu'être adhérent et délégué du personnel pour un syndicat voulait dire que ce dernier pouvait nous aider, ne serait-ce qu'un support d'information ou juridique sur des questions bien spécifiques. Malheureusement, le syndicat a laissé tous mes mails sans réponse. On est parvenu à obtenir certaines choses, comme l'augmentation de tous les salaires, pour respecter les minima. Et le manager principal, responsable des dépressions et des burn-out, n'a jamais été inquiété. Encore pire, après mon départ en 2019, les nouveaux délégués du personnel ont ignoré ces problèmes et ont ainsi mis en danger les salariés, en venant se plaindre et en les balançant directement à la direction. J'imagine bien qu'il existe plein de syndicats qui doivent fonctionner d'une meilleure manière, mais moi, ça m'a pas mal découragée et dégoûtée. On sait pourtant que les problématiques de harcèlement sont légion dans ce milieu, comme celles liées au respect du droit du travail et des salariés. Voilà, c'était le témoignage de Maresque. Bah, merci à Maresque. Ce témoignage assez poignant sur comment ça se passe dans ce genre de boîte.
Du coup, peut-être Adèle, si tu as quelque chose à rajouter sur l'incapacité de son syndicat à l'aider avant de conclure.
Oui, bah bon, je sais pas quel syndicat c'est, mais comme un peu partout, les syndicalistes peut-être manquaient tout simplement de temps, hein, parce que parfois on est complètement débordé. De questions qui viennent de tous les côtés, et malheureusement il et elle n'ont pas pris le temps de répondre à Maresque, et bon, c'est une erreur, mais bon, parfois c'est impossible. Ça peut aussi être des syndicalistes qui sont bien au chaud et qui n'ont pas envie de se bouger, ça existe aussi. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut essayer d'aller voir ailleurs, en fait, tout simplement, dans un autre syndicat. À la CGT et à Solidaires, il y a des unions locales et des unions départementales qui ne tournent pas toujours parfaitement. Hein. Pareil, c'est du bénévolat, mais où on peut avoir des chances quand même d'avoir des réponses et des réponses pertinentes.
Voilà, je te rejoins tout à fait là-dessus. Il faut penser que souvent, les personnes qui s'occupent des syndicats sont bénévoles, font ça parfois sur leur temps de travail quand ils peuvent poser des heures syndicales, mais aussi beaucoup en dehors de leur temps de travail. En dehors du fait qu'il y a aussi des syndicats qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont, on va dire, en accointance avec les directions. Mais j'aimerais dire une dernière chose avant de conclure, c'est que un syndicat, c'est comment dire, c'est fait pour nous aider, mais c'est nous qui devons nous emparer de l'outil du syndicat. C'est-à-dire que le syndicat n'a pas toutes les réponses. Des fois, c'est des gens qui sont là bénévolement, qui sont pas forcément plus formés que vous s'ils sont là depuis pas très longtemps, qui essayent de faire comme ils peuvent, ils essayent de sortir la tête de l'eau. Mais si jamais vous avez les moyens de vous-même vous renseigner sur un sujet, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai une question sur les jours de carence, je vais sur Légifrance, je tape jours de carence, j'essaie de trouver l'arrêté le plus récent, j'envoie au syndicat et voilà, on voit avec la personne du syndicat ensemble si on peut tirer quelque chose de ça. Et si jamais on n'y arrive pas, il y a toujours les unions locales ou départementales pour essayer de nous aider. Et surtout, il faut se former. Formez-vous, puisque c'est en se formant justement qu'on arrive à s'emparer de l'outil du syndicat. Le syndicat, c'est pas un service à la personne, c'est pas un service clientèle. Le syndicat, c'est nous et c'est vous, c'est tout le monde, c'est tous les syndiqués et les personnes qui le composent. Voilà, c'était ma conclusion. Si tu as une dernière chose à dire, Adèle.
Eh ben, magnifique ta conclusion, et je trouve que ça reboucle parfaitement avec le début de l'émission où on parlait de la formation syndicale. Faites de la formation syndicale carrément. Il y a des formations de très bonne qualité qui sont réalisées, et ça vous permettra aussi de rencontrer des syndiqués d'autres boîtes, des syndiqués d'autres secteurs, de nouer des liens entre les secteurs, ce qui est juste primordial en fait pour assurer une certaine cohésion à notre classe sociale. Donc, comme Missa, hein, formez-vous, formons-nous.
Eh ben, merci beaucoup Adèle. C'était un plaisir de co-animer cette émission avec toi. Et du coup, on va envoyer la dernière chanson en conclusion. Il s'agit de Gesté de Sulka, SUL-K. Et donc, c'est une musique un peu plus d'ambiance, un peu plus pour danser, pour conclure cette soirée dans la bonne humeur. Bisous les pirates, et on espère vous retrouver demain pour l'émission sur la santé mentale. Ciao.
Yeah, c'est être du Yoka. Tu connais les bails, non? Aujourd'hui, on va gester, on va assumer, on est ensemble. Ouais. Yeah. Que tu m'aimes pas ou que tu m'aimes, pourtant je reste le même. Que je fasse du bien ou que je fasse du mal, ta bouche va toujours parler. Va te voir toujours en dessous et content quand tu n'as pas de sous, mais tes kiffs mais ne veulent pas assumer. Tu te loupes sans trop rassurer. Laissez les jacques tes poteaux, ils ont la maille mais pas le talent. Laissez les jacques tes poteaux, ils ont l'oreille mais pas le tapon. Laissez les parler si tu veux, t'as fait, fais ta phase en deux deux. Si les rageux parlent encore chez nous, ça va bouger, c'est cacaté. Allez bisous là-bas, si tu veux toujours rager. Si tu crois qu'on n'a pas pied, t'inquiète, on sait nager. Allez, bisous là-bas, si tu veux toujours parler. Si tu crois qu'on n'a pas pied, t'inquiète, on sait nager.
On est juste majesté, juste.
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 Allez, tape ta phase.
Juste un bas, maman soit. Les gens vous voient, les jaloux bisous. Les gens vous voient, j'ai dit les jaloux bisous. Pourtant on vient d'en bas, la logique c'est de monter.
la diff. T'aimes à le bouger solide et l'équipe. Anissé capitaine, prochain clip. Numéro 12, ouais, ça c'est mon tip. T'as refait la Corée, y'a trop de flow. T'as cliqué, t'as kiffé, mais t'as pas follow. Chez nous, en tout cas, ça va pas bouger. C'est comme ça qu'on t'aime si tu veux jalouser. Petit petit dans mon avancée. Mal qu'à changer, tu sais qu'à danser. C'est Ben et Kali, y'a qu'à danser. Belle crise dictateur, poste avançant. Allez, bisous là-bas, si tu veux toujours rager. Si tu crois qu'on n'a pas pied, t'inquiète, on sait nager. Allez, bisous là-bas, si tu veux toujours parler. Si tu crois qu'on n'a pas pied, t'inquiète, on sait nager. Allez, juste un majesté, juste un. Juste un majesté, juste un. Juste un majesté, juste un. Allez, juste un majesté, juste un. Allez, juste un majesté, juste un. Allez, tape ta phase.
Vous êtes les prochains, on y va.